Chers frères et sœurs et chers amis, nous arrivons à l'étude numéro 61, toujours de la série, on peut dire la plus importante, qui est au sujet de la prière. Nous aurons deux sujets. Premièrement, le secret de connaître les choses pour lesquelles on devrait prier. Deuxièmement, qu'est-ce que le Seigneur exige de nous? La Bible dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Saint Matthieu, chapitre 6, verset 10. Il est important de connaître ce qui est la volonté de Dieu et il est important également de connaître ce qui n'est nullement sa volonté. Il est évident que Dieu ne répond pas à quelques prières particulières parce qu'elles sont hors de sa volonté révélée. Mais en tombant d'accord sur ce point, nous devons bien faire une restriction mentale. Beaucoup de gens ne reçoivent rien parce que ce qu'ils demandent est hors de la volonté de Dieu. Mais il y a beaucoup d'autres encore qui ne reçoivent rien parce qu'ils sont sans aucune foi. Et en effet, beaucoup de gens s'excusent de leur insuccès en supposant qu'il n'est pas dans la volonté de Dieu de leur donner ce qu'ils ont demandé à cause d'un certain dessein mystérieux dans la providence de Dieu, pense-t-il. Ceux qui marquent, ou plutôt ceux qui manquent, de recevoir la guérison du Seigneur, et ceci au moyen de la prière, ils prennent souvent certains points de vue. Ils disent que Dieu ne les guérit pas parce que ce n'est pas la volonté qu'il y a une guérison pour eux. Naturellement, c'est là une erreur assez grave, car c'est en effet un déni de la volonté révélée de Dieu. La Bible dit « Qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies ?» Psaume 103, verset 3. Parce que le pardon et la guérison sont mentionnés dans le même verset, un déni de la promesse de guérison équivaut à un déni de la bonne disposition de Dieu à pardonner. Néanmoins, il y a des pétitions présentées à Dieu qui sont évidemment hors de sa volonté. La prière, par exemple, qui a du succès, signifie que nous prions selon sa volonté. Dieu transportera une montagne s'il le faut, mais il faut aussi que la transportation de la montagne ait un but dans la volonté divine. Parfois, Dieu ne peut pas répondre à certaines prières à cause de leur nature. Pendant la guerre civile en Amérique, ça c'est un bon exemple, les soldats des deux côtés se réunirent séparément, et ceci pour prier, et ils supplièrent Dieu, mais vraiment intensément, et même sincèrement, de permettre que leur côté puisse remporter la victoire. Mais, sérieusement, voyez-vous, tous les deux antagonistes ne pouvaient pas remporter la victoire tous les deux à la fois. C'était l'un ou l'autre. Donc là, on voit bien que la prière était pas bienvenue. Cependant, il y a beaucoup de choses pour lesquelles nous pouvons en effet prier qui sont hors de doute, surtout quant à la volonté de Dieu. Il nous faut donc prier toujours comme le Seigneur. Rappelez-vous quand il a dit « Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Père. » Il est certain qu'une révélation de Dieu ne sera jamais contraire à ce qu'il a déjà révélé touchant sa volonté. Remarquons certaines prières qui sont racontées dans la Bible, qui étaient absolument hors de la volonté de Dieu et auxquelles une réponse, évidemment, ne pouvait pas être donnée. Voyons un peu cela de plus près. On va regarder ensemble sept prières assez intéressantes. Premièrement, nous avons la prière d'Élie, et ceci pour la mort, pour sa mort. 1 Rois chapitre 19, verset 4. Dieu ne répondit pas à cette prière. Il a eu un dessein très différent pour Élie, qui devait être enlevé au ciel sans avoir la mort. De cette histoire, nous pouvons voir qu'Élie était insensé dans l'heure de découragement profond quand il demanda la mort, en même temps qu'une grande épreuve l'attendait rapidement. Mais il y a beaucoup d'autres, oh oui, depuis Élie, il y en a beaucoup d'autres qui ont prié la même prière insensée. Ces gens devraient demander à Dieu de leur donner la force et l'encouragement pour la journée. Et ils devraient laisser à Dieu l'heure de leur mort. Deuxièmement, nous avons le désir de Balak, que les enfants d'Israël soient maudits. C'est aussi simple que ça, n'est-ce pas? Oui, Balak désira que les enfants d'Israël soient maudits pour les vaincre dans la bataille. Il dit donc au prophète Balaam, « Viens, je te prie, et maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je, je pourrais le chasser du pays, car je sais que celui que tu bénis, il est béni, et que celui que tu maudis est vraiment maudit. » Nombre chapitre 22, verset 6. Balaam, le prophète, avait connaissance de la puissance de la prière. Mais Balaam, prophète mercenaire, on peut bien le dire, n'était pas soumis à la volonté révélée de Dieu. Car lorsque le Seigneur lui fit savoir qu'il ne devait pas maudire les enfants d'Israël, il perdit son temps avec le roi de Moab, qui, bien sûr, avait une maison pleine d'argent pour lui donner. Et il essaya d'obtenir une nouvelle révélation de Dieu touchant une chose particulière qui fut déjà révélée complètement. Troisièmement, nous avons la prière de Jérémie pour une bénédiction sur un peuple qui avait rejeté la volonté de Dieu. Jérémie chapitre 14, versets 1 à 16. De nos jours, on dépeint souvent le Seigneur comme un brave homme, un papa gâteau, qui est heureux de répondre aux prières de tout le monde, qu'ils aient l'intention de le servir ou non. Pourtant, ce qui est certain, c'est que Dieu a fermé les yeux de temps en temps sur l'ignorance d'un pécheur, et ça c'est vrai, et il a même répondu à sa prière. Mais attention, on a tort si on enseigne que Dieu répondra toujours, régulièrement, aux prières des gens qui se révoltent contre sa volonté et qui vivent surtout une vie de la mondanité et du péché. Il y avait une sécheresse assez sérieuse dans le pays et Jérémie, avec d'autres, priait que Dieu terminerait la période sèche et prolongée. Mais l'Éternel dit à Jérémie de ne pas prier cette prière-là. Il dit « N'intercède pas en faveur de ce peuple. S'ils jeûnent, je n'écouterai pas leurs supplications. S'ils offrent des holocaustes et des offrandes, je ne les agréerai pas, car je veux les détruire par l'épée, par la famine et par la peste. » Jérémie chapitre 14, versets 11 à 12. Donc, c'est pas tout à fait papa gâteau. Voyez-vous, quand une nation s'est détournée de Dieu et pour aller vers les idoles, fini le papa gâteau, on a beau prier pour un allègement du jugement, la seule manière de délivrance, c'est par se repentir honnêtement. Une personne ou une nation peut pécher jusqu'au point où le jugement ne manquera pas de venir. Comme l'apôtre Jean a dit, il y a un péché qui mène carrément à la mort. Et ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Premier épître de Saint Jean, chapitre 5, verset 16. Quatrièmement, nous avons la prière pour la destruction des ennemis. Saint Luc, chapitre 9, verset 55 et 56. En effet, il y a un temps où la grâce s'est passée, où c'est trop tard, et il ne reste que le jugement. Mais Dieu offre toujours la grâce avant le jugement. Notre dispensation est une dispensation de grâce. Les hommes sont désireux quelquefois d'exécuter un jugement avant que Dieu le fait. Cela arriva dans le cas de Jacques et de Jean. Ils ont reçu un traitement injuste à un certain bourg en Samarie et on leur a refusé même de leur donner un logement. Évidemment, ils n'étaient pas très contents. Jacques et Jean, fidèles à leur nom, qui veut dire les fils du tonnerre, demanda à Jésus-Christ de dire la parole de jugement et il détruirait le bourg en commandant tout simplement que le feu descende du ciel. Ils dirent « Seigneur, veux-tu que nous condamnions et que le feu descende du ciel et les consume tous ?» Ils n'eurent pas encore aperçu qu'un nouvel âge de grâce avait commencé à poindre avec la venue de Christ. Car avant c'était le temps de la loi. Mais désormais, ils devaient être animés par un autre esprit qui serait différent de l'esprit de ceux qui vivaient en vertu de la loi de l'Ancien Testament. Jésus-Christ, donc, réprimanda les deux disciples qui faisaient un peu trop de zèle et il dit « Mais vous ne savez absolument pas de quel esprit vous êtes animés. » car le Fils de l'homme est venu non pas pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Saint Luc, chapitre 9, versets 55 et 56. Cinquièmement, nous avons les prières de la convoitise. Et oui, beaucoup de prières ont leur origine dans la convoitise. Dieu a promis un centuple dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir. Mais ceux qui pensent que la prière n'est qu'une méthode d'obtenir des bienfaits matériels, ils trouvent en effet que leurs prières sont sans réponse. Jacques a dit « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez uniquement des choses dans le but de satisfaire vos passions. » Jacques, chapitre 4, verset 3. J'ai tiré cela d'une version allemande. Un jour, un homme s'approcha de Jésus-Christ et lui demanda de vouloir bien persuader son frère de partager avec lui l'héritage. Combien nous le comprenons. « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Saint Luc, chapitre 12, verset 13. Mais voilà, le Seigneur lui répondit avec une vive réprimande. En avertissant l'homme et d'autres qui étaient là avec lui, il dit l'histoire de l'insensé riche, qui lui ne pensait avidement qu'à toute sa récolte, uniquement, et tous ses biens qu'il eut amassés, et combien il en a amassé dans ses greniers. Et voyez-vous, cet homme, il se dit, « Mon âme, repose-toi, mange, bois, et surtout te réjouis. » Verset 19. Mais voilà, Christ expliqua que Dieu lui demande, il lui demandera surtout compte, et bientôt, c'est-à-dire cette nuit même, il lui demandera des comptes cette nuit même en lui disant « Tu es un insensé, car cette nuit même ton âme te sera redemandée. » Voyez-vous, dans cette parabole, Christ révéla le danger d'un esprit avide. Il montra que la vie d'un homme ne fut pas mesurée uniquement par l'abondance des choses qu'il possède, des beaux habits, des belles bagues, des beaux colliers, une villa avec piscine, etc. Oui, Dieu ne bénit pas une prière qui est surtout animé par un esprit avide. Sixièmement, nous avons la prière pour des signes. Ah oui, les signes, qu'est-ce qu'on en voudrait tous? Les pharisiens sont venus vers Jésus et lui demandèrent un signe venant du ciel. Il refusa leur demande et il leur dit qu'un signe ne leur serait pas donné, sauf le signe du prophète Jonas. Il y a des gens aujourd'hui qui disent qu'ils croient, ou qui croiront surtout, ah oui, alors là, surtout, si une personne particulière va être guérie d'une maladie terrible, ou si un miracle particulier va être fait. Hérode était une telle personne qui voulait voir Jésus-Christ, mais il voulait le voir surtout parce qu'il espérait qu'il le verrait faire quelques miracles. Saint Luc chapitre 23, verset 8. Mais Christ ne voulait pas lui parler en accomplissant simplement des miracles. Il n'y a pas de miracle pour les gens hautains, orgueilleux, seulement pour ceux qui sont humbles en esprit. Et septièmement, nous avons la prière ambitieuse. Jacques et Jean étaient ambitieux. Ils désirèrent être grands. Donc, évidemment, ils ont demandé à Jésus, « Maître, nous voudrions tellement que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Saint Marc, chapitre 10, verset 35. Et puis, ils expliquèrent qu'ils voulurent simplement être assis l'un à la droite et l'autre à la gauche de Jésus-Christ quand il viendrait dans sa gloire. Ah, leur demande assez ambitieuse, hein? Elle a abouti à produire de l'envie, et on le comprend, et de l'indignation parmi les autres disciples. Mais Jésus-Christ montra que la rivalité est mal à propos dans le royaume de Dieu. Il décourageait les prières qui étaient animées par l'ambition. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Saint Matthieu chapitre 23 verset 12. Alors, mes chers amis, pour quelle chose doit-on donc prier? Il nous faut connaître, et comment connaître les choses pour lesquelles nous ne devrions surtout pas prier. Et il est important aussi de connaître les choses pour lesquelles nous pouvons réellement prier. Dans l'oraison dominicale, Christ a fait mention de plusieurs choses pour lesquelles nous pouvons prier. Il nous a dit que nous devrions prier pour la venue du règne de Dieu sur la terre, pour que Dieu pourvoie à nos besoins quotidiens, pour que Dieu pardonne nos péchés, pour que Dieu anticipe nos tentations et qu'il nous délivre du malin. Nous avons considéré ces prières dans d'autres CD, mais il y a ailleurs, dans l'Écriture sainte, un certain nombre de prières que les croyants devraient absolument prier, et nous mentionnerons brièvement 8 prières importantes. Premièrement, nous devons prier pour le Saint-Esprit. Lorsque Jésus-Christ enseignait l'art de prier à ses disciples, il leur dit « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Saint Luc, chapitre 11, verset 9. Il illustra ses paroles en disant que si des pères terrestres donnèrent de bonnes choses à leurs enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnerait-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Si donc, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Saint Luc chapitre 11, verset 13. Pourquoi Jésus-Christ parla-t-il du Saint-Esprit comme s'il fut la plus importante de choses qu'on peut demander? En vérité, le croyant a besoin du Saint-Esprit, et ceci plus que toute autre chose. Il ne peut pas prier comme il faut sans l'Esprit Saint. Il ne peut pas vaincre le diable sans le Saint-Esprit. Il ne peut pas surmonter le moi sans le secours du Saint-Esprit. La première prière du pécheur devrait être, rappelez-vous, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Et la deuxième prière devrait être « Ô Dieu, donne-moi le Saint-Esprit. » Deuxièmement, nous devons prier pour ceux qui nous maltraitent. Saint Matthieu, chapitre 5, verset 44. Oui, c'est humain de ne pas aimer un ennemi. Et comment? Mais, par contre, c'est divin de prier pour lui. Oui, le commandement de Jésus-Christ que nous devrions prier pour nos ennemis établit une distinction entre le christianisme et toutes les autres religions. Seule la grâce de Dieu donne à un homme le pouvoir de prier pour ceux qui l'ont maltraité. Je pense qu'une femme battue, elle aura beaucoup de peine à prier pour son mari. Mais je le comprends. Je le comprends. Ça ne veut pas dire parce que je le comprends que, avec tout ce que j'ai appris dans la parole de Dieu, que je dois vous dire c'est juste. Vous avez raison. Eh bien non. Voyez-vous, encore une fois, non. Non, nous devrions apprendre à prier pour ceux qui nous maltraitent. Ça, c'est difficile, je le sais. Et j'en sais quelque chose de ma jeunesse. Enfin, seule la grâce de Dieu donne à un homme le pouvoir de prier pour ceux qui l'ont maltraité. Mais Jésus-Christ a fait cela sur la croix. Et oui, quand il a par exemple prié en disant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent absolument pas ce qu'ils font », il est remarquable et très significatif que la première prière que Christ nous a enseigné à prier est celle-là, c'est-à-dire pour nos ennemis. Troisièmement, nous devons prier que le Seigneur de la moisson enverra des ouvriers dans sa moisson. Nous ne devons pas penser uniquement que l'on évangélisera le monde automatiquement, à moins que nous ne fassions notre devoir. C'est l'obligation solennelle de l'Église de prier que Dieu élèvera des hommes et des femmes qui annonceront cette grande nouvelle de la délivrance au bout du monde. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Saint Luc chapitre 10 verset 2. Quatrièmement, nous devons prier pour nos frères et sœurs. Christ a dit à Pierre, l'apôtre, « mais j'ai prié pour toi. Et ceci afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti vraiment, totalement affermi, alors là, tu pourras être celui qui va pouvoir amener tes frères et sœurs au Seigneur Jésus-Christ, à moi. Saint Luc, chapitre 22, verset 32. Cinquièmement, nous devons prier pour la protection et le salut des serviteurs de Dieu, que ce soit des hommes ou des femmes. Pendant que l'apôtre Pierre était en prison et qu'il attendait son exécution le lendemain matin, l'Église continuait à s'appliquer à la prière pour sa délivrance, non pas pour son exécution. Et il en résulta qu'un ange est venu pour ouvrir les portes de la prison et même pour l'amener en sûreté. Actes des Apôtres, chapitre 12. Sixièmement, nous devons prier que nous serons trouvés dignes de paraître debout devant Christ à son avènement. Veillez, nous est-il dit, veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Saint Luc, chapitre 21, verset 36. Septièmement, nous devons prier pour l'unité de tous les croyants, pour que le monde croie. Saint Jean, chapitre 17, verset 21. Et nous arrivons à huitièmement, nous devons prier pour la guérison des malades. Et il y en a de plus en plus. Avec toute la pollution, c'est pas étonnant. Donc, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Jacques, chapitre 5, verset 16. Oui, nous ne pouvons que reconnaître les choses qui sont dans la volonté de Dieu après que nous avons prié avec empressement au sujet de ces choses. Mais nous n'honorons pas Dieu en cherchant sa volonté pour quelque chose au sujet de laquelle il a déjà parlé avec clarté. Par exemple, Christ a dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création ». Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Saint Marc, chapitre 16. Nous ne devons pas demander à Dieu si c'est là la manière d'évangéliser les païens. Nous devons avancer et surtout le faire. Nous devons agir. Chers amis, quel est le secret du rapport quotidien avec Dieu ? Il est dit « Donne-nous chaque jour notre pain quotidien » Saint Luc, chapitre 11, verset 3. Dans ces paroles, Jésus-Christ a indiqué un autre secret vital dans l'art de prier pour changer des choses. C'est ici le principe du rapport quotidien avec le Dieu vivant. Jésus-Christ enseigna les hommes à prier en disant « Donne-nous chaque jour notre pain quotidien ». Dieu a ordonné des lois particulières pour gouverner son univers. Le domaine de la prière démontre emphatiquement que ces lois sont absolument immuables. Pour prier avec succès, on doit se mettre en rapport avec Dieu chaque jour. Quand la vie spirituelle d'un homme commence à se détériorer, on découvre en général que la raison a sa source dans un besoin de la prière consistante et quotidienne. Ceux qui ont recherché ce sujet se sont étonnés d'apprendre que beaucoup de gens, même des pasteurs, donnent si peu de temps à la prière en réalité. Ils passent peut-être 5 ou 10 minutes, puis encore, par jour, en disant leur prière, et ensuite, ils sont en route au plus vite possible. Ce n'est pas étonnant que les puissances des ténèbres peuvent se mobiliser et même peuvent paralyser souvent leurs efforts complètement. Une vie victorieuse est faite des choses qui prennent forme dans le creuset de leur quotidienne. Oui, une heure quotidienne, c'est pas de trop, de la prière. Dieu doit agir avec la matière qu'on lui a donnée, et s'il y a peu de matière faite et qui est disponible, il est forcément limité dans ce qu'il peut faire. Beaucoup de gens ne réalisent pas que la prière est une substance absolument réelle. Si on lit, par exemple, l'Apocalypse, Révélation de Saint Jean, chapitre 8, verset 3, on peut voir que Dieu amasse les prières de tous les saints pour s'en servir au moment convenable. D'une façon vitale, les prières du peuple de Dieu ont part à l'exécution de son dessein sur la terre. Dieu a ordonné que les hommes aient les ressources du ciel à leur disposition. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, nous dit Jésus-Christ. Allez donc par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. L'Église peut donc entreprendre cette tâche très importante parce que tout pouvoir a été rendu disponible. Mais ce n'est que disponible à ceux, écoutez bien, à ceux qui restent en contact de jour en jour avec le Père Céleste. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Christ ne nous demandait pas de prier pour une provision, par exemple de pain, pour toute une année, ou chaque mois, ou même pour chaque semaine. Dieu souhaite que nous nous confions absolument à lui chaque jour. Suffira ta peine. Il désire que nous soupirions après la force, la puissance de sa présence et sa puissance fortifiante tous les jours. Chers amis, nous avons la manne quotidienne. Rappelez-vous aussi cette grande leçon que nous devons nous confier à Dieu de jour en jour. Elle fut enseignée par le don de la manne aux enfants d'Israël. Ils devaient recevoir une quantité suffisante pour un seul jour. Personne ne pouvaient ramasser une quantité suffisante pour plusieurs jours à la fois et de l'entasser pour s'en servir à l'avenir. Ceux qui faisaient cela, il y en avait, trouvaient que la manne faisait naître des vers et qu'elle était absolument impropre à la consommation humaine. Beaucoup de chrétiens se trompent souvent. Voyez-vous, ils désirent avoir la guérison qu'ils ne veulent pas perdre, plutôt que la santé qui vient de se confier chaque jour à la puissance vivifiante de l'Esprit-Saint de Dieu. Ils désirent plutôt avoir la sécurité financière qui ne les oblige pas d'aller tous les jours à la chambre secrète et pourquoi pas à genoux pour demander à Dieu de pourvoir à leurs besoins. Ils désirent avoir aussi un baptême du Saint-Esprit, pourquoi pas, qu'il n'existe pas un contact, oui, qui n'existerait pas, qui nécessiterait pas, devrais-je dire, un contact quotidien avec Dieu pour une nouvelle onction. Mais de tels désirs ne sont pas d'accord avec le dessein de Dieu. Le dessein de Dieu implique que nous devons être sous la dépendance du Seigneur de jour en jour. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. En tout cas, pas moi. Si nous allons accomplir sa volonté dans nos vies avec succès, nous ne devons pas permettre s'écouler un seul jour sans cette communion vitale avec lui. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Les hommes s'inquiètent de prendre régulièrement la nourriture naturelle, mais ils ne s'inquiètent pas tellement de l'homme intérieur qui a besoin aussi d'un remplissage chaque jour. Comme le corps est sensible à l'effet de ne pas manger de la nourriture, ainsi l'âme souffre quand elle manque de se nourrir du pain de vie. Jésus-Christ a dit « Je suis le pain de vie ». Saint Jean, chapitre 6, verset 35 et je crois 48. Donc, rappelons-nous d'un nom merveilleux, Daniel. Daniel, il est une illustration magnifique de celui qui a appris le secret du vrai succès. Quel était le secret de la puissance de Daniel? La réponse est qu'il regarda la prière comme une entreprise vitale. Il ne courait pas à Dieu quand quelques crises paraissaient. Les crises étaient très communes dans sa vie, mais quand elles vinrent, il savait toujours ce qu'il devait faire, car trois fois par jour, avez-vous entendu, trois fois chaque jour, il allait à la rencontre de son Dieu et lui rendait grâce. Il ne demandait pas des steaks tartares, c'était sa coutume de rendre grâce trois fois par jour, et cela tous les jours, et il ne permettait à rien de l'interrompre. Et lorsque des hommes jaloux, et comment, cherchaient à lui ôter la vie, et qu'ils ont fait faire une loi terrible qui défendrait toutes les pétitions à tout le monde, et ceci par le roi, et pendant 30 jours. Alors Daniel, pardon, Daniel n'était pas du tout pris de panique. Oh non, il allait tout simplement adorer son Dieu comme d'habitude. Advienne que veut. Hein? Qu'on me fasse n'importe quoi, je continue de prier mon Père Céleste. Et lorsque Daniel sut que le décret était écrit et fixé, et croyez-moi, mis et appliqué partout, il se retira tout de même dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et trois fois le jour, il se mettait à genoux, humblement. C'est fini l'orgueil. Et il priait, et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant chaque jour. Daniel chapitre 6, verset 10. Bien sûr que c'est là que nous avons le fameux secret de Daniel. Il regardait la prière comme une entreprise vitale chaque jour. Les royaumes de la terre s'agrandiraient et ils tomberaient ensuite en décadence. De méchants hommes conspireraient contre sa vie. Mais quant à lui, il savait en qui il avait cru. Or Daniel se fait transporter une montagne. C'est une façon de dire. Nebuchadnezzar, ou Nebuchadnosor, comme vous voulez, roi de Babylone, avait amené Daniel dans sa jeunesse, ainsi que beaucoup d'autres de Jérusalem, à Babylone comme esclave. Et le grand chagrin de son cœur était bien entendu cette tragédie qui était arrivée à son peuple. Chaque jour qu'il ouvrit sa fenêtre vers Jérusalem pour prier, ses pensées étaient avec son peuple qui souffrait sous la main lourde du châtiment divin. Il avait bien envie de voir leur rétablissement, mais il y avait là une montagne. La montagne de destruction de Babylone tenait en esclavage le peuple et elle ne les laisserait pas s'en aller. Mais Daniel avait la foi. Daniel avait vraiment la foi pour croire que Dieu pouvait transporter cette fameuse montagne. Il s'appliqua à la prière et au jeûne. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Daniel chapitre 9, verset 3. Et Babylone, la montagne de destruction, fut enfin transporté. Dieu leva le roi Cyrus pour accomplir son dessein divin. Ésaïe 44, verset 28. Cyrus, le Perse, a vaincu l'empire babylonien et puis il a fait un décret que Jérusalem serait rétablie. On peut dire alléluia. Le prophète Jérémie raconte comment l'Éternel transporta la montagne de destruction, et ceci afin que le peuple de Daniel ait pu retourner à Jérusalem. Il est dit dans Jérémie, chapitre 51, versets 24 et 25, Je rendrai à Babylone et à tous les habitants tout le mal, oh oui, tout le mal qu'ils ont fait à Sion sous vos yeux, a dit l'Éternel. Et voici, j'en veux à toi, montagne de destruction, à nouveau dit l'Éternel. Oui, à toi qui détruisais toute la terre, j'étendrai ma main sur toi et je te roulerai du haut des rochers et je ferai de toi une montagne embrasée. Ainsi voyez-vous, mes chers amis, la montagne fut transportée. Autant que nous sachions, Daniel ne manqua jamais d'obtenir une réponse à sa prière. On pourrait en être jaloux. Quelquefois, il paraissait que le résultat était en doute. Oh là là, moi j'ai honte parce que j'ai aussi des doutes. Il y avait quelques occasions où Satan contester même furieusement le droit de Daniel à la promesse de Dieu. Du reste, une fois, les puissances des ténèbres luttaient contre lui pendant 21 jours. Oh là là, s'il n'y avait pas eu un archange puissant, on ne sait pas si les jours auraient été beaucoup plus longs. Une fois donc, les puissances des ténèbres luttaient contre lui, je viens de le dire, pendant 21 jours. Mais voyez-vous, Daniel, il n'hésita jamais, et aussi à la fin, le cours de la bataille se changea en quoi ? Se changea en victoire, gloire à Dieu. La régularité de la vie de la prière de Daniel ne permettait jamais au diable de prendre pied dans sa vie. Daniel a démontré qu'un homme pourrait vivre, peut-être même pour un siècle, et de remporter une victoire toutes les heures même pendant cette très longue vie. Le très grand effet de la prière quotidienne se révèle dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne permettait à rien de déranger sa communion accoutumée avec Dieu. Oh non ! Souvent, il lui fallait se lever le matin de très bonne heure avant l'arrivée des gens, afin d'avoir son temps de la prière intime avec son Père Céleste. Et lorsqu'il devait faire une grande décision, il allait à une localité éloignée où il pouvait être tout seul et où il pouvait passer les heures à prier son Père. Il sut que la prière fut la seule méthode par laquelle il pourrait accomplir son grand dessein. Oh oui, l'importance de la prière quotidienne, de rencontrer Dieu chaque jour et de ne pas faire sa prière d'une manière fortuite et insouciante, s'est illustrée très fortement dans l'histoire d'un marchand chrétien de l'Arménie qui portait de la marchandise avec la caravane à travers le désert vers une ville en Arménie turque. Évidemment, beaucoup d'entre vous auront des doutes et de la peine à croire à cette histoire qui pourtant est absolument vraie. Après avoir été élevé par ses parents chrétiens, ce marchand avait pris l'habitude toute sa vie de se soumettre entre les mains de Dieu, et ceci tous les jours de sa vie. Aussi au temps de cet incident, les Kurdes infestaient le pays. Et ceux-ci n'étaient pas des gens trop bien élevés et gentils, mais c'était des bandits qui vivaient en volant les caravanes. Aujourd'hui, on ne fait pas beaucoup mieux. On a même des couteaux à cran d'arrêt pour attendre la victime d'un certain âge quand elle sort de la banque, où elle est allée à retirer tout simplement son petit pécule, on peut bien le dire, de son ou de sa retraite. Enfin, oui, et je disais à l'heure choisie, sous la protection des ténèbres, ces bandits s'approchèrent du camp. Tout était étrangement tranquille. Apparemment, il n'y avait pas de garde ni de veilleur. Mais après s'être avancés, ils trouvèrent à leur grand étonnement qu'il y eut des hautes murailles où il n'y avait jamais eu de murailles auparavant. Oui, ça peut paraître incroyable. Mais ça fait partie des miracles de Dieu. Aussi, ils continuèrent à suivre la caravane, les bandits de grand chemin. Et le lendemain soir, ils trouvèrent les mêmes murailles absolument impraticables. Or, le troisième soir, les murailles étaient toujours debout, mais voilà qu'il y avait des brèches entre elles par lesquelles ils pouvaient entrer. Le capitaine des voleurs était absolument terrifié de ce très grand mystère du jamais vu, et il éveilla le marchand. « Que veut dire ceci ? » dit-il. « Car depuis que vous êtes parti d'Etserum, nous avons suivi avec l'intention de vous voler. » Le premier soir et le deuxième soir, nous avons trouvé de hautes murailles autour de la caravane, mais ce soir, nous sommes entrés dans le camp par des brèches dans les murailles. Si vous voulez nous dire ce secret incroyable, cette histoire impensable, eh bien, je vous promets de ne pas vous molester et plus jamais de vous molester. Le marchand lui-même était forcément surpris et encore en plus embarrassé. Ah, pourquoi ? Il savait pourquoi. Alors il a dit, mes amis, je n'ai rien fait pour faire lever des murailles autour de nous. Tout ce que je fais, c'est que je prie à genoux tous les soirs et je me confie à mon Dieu, au Père Céleste. Aussi, je confie à Dieu absolument tous ceux qui sont avec moi. Je me confie en lui complètement, avec confiance, la confiance d'un enfant, pour me préserver de tout le mal. Mais il est vrai que ce soir-là, parce que j'étais assez fatigué et j'avais tellement sommeil. Et j'ai fait ma prière d'une manière tiède. J'honorais Dieu seulement des lèvres, mais pas plus. Mais pas avec la profondeur de mon âme et de mon esprit. Aussi, cela doit être le pourquoi que vous avez été permis d'entrer dans le camp. Les Kurdes étaient absolument, fortement émus par un témoignage comme celui-ci, du jamais entendu. Et sur le champ, ils se donnèrent eux-mêmes, tous, à Jésus-Christ. Et ils étaient sauvés. Donc, au lieu d'être des voleurs des caravanes à l'avenir, ils devinrent des hommes justes qui craignaient Dieu. Cependant, l'Arménien, lui, il n'a jamais oublié ces brèches entre les murailles de la prière. Et ainsi, nous apprenons, chers amis, un secret, le secret de la puissance de la prière. Celui qui veut faire transporter des montagnes doit prendre l'habitude de prier dans tout le cours de sa vie, exactement comme Daniel. Il doit aller régulièrement à la rencontre de son Dieu. Il faut que la prière devienne aussi naturelle que la respiration. Et avec une telle prière, les hommes, les femmes, excusez-moi, souvent on ne mentionne pas le mot femme, mais c'est parce que dans la Bible c'était compris comme tel. Alors, j'essaie de corriger pour vous, mes chères sœurs, pardonnez-moi. Alors, les hommes et les femmes, elles peuvent vaincre les forces spirituelles qui sont rangées contre eux et que les moyens humains ne pourraient jamais surmonter. Aussi, au moyen de la prière persistante, l'ennemi est tenu en échec et une haie, un mur de protection est maintenu autour de nous par laquelle le mal ne peut plus nous toucher. Gloire à Dieu, on peut bien le dire. Chers amis, qu'est-ce que le Seigneur exige de nous? Pour un check-up spirituel, voici les 6 choses que le Seigneur nous demande dans nos relations avec Dieu, avec les autres chrétiens et même avec les non-chrétiens. Premièrement, nous avons le culte. Le culte au-dessus de tout ce que nous faisons, nous devons vouer un culte à Dieu en esprit et en vérité. Jean chapitre 4, versets 23 et 24. Deuxièmement, nous avons le service, le travail pratique de notre amour pour Dieu, et notre culte sera une vie de service pour lui. Saint Matthieu 4, verset 10. Et nous ne devons pas avoir peur d'être avec les autres chrétiens. Troisièmement, nous avons l'instruction. Notre but est d'édifier, de développer et d'encourager les autres chrétiens dans tout ce que nous faisons. En ce sens, nous les aiderons à marcher plus proche de Dieu. Romains 15, verset 2 et 1 Corinthiens 14, verset 3 à 5. Quatrièmement, nous avons à nouveau le service. Nous devons servir l'un l'autre en dehors de l'amour et de l'humilité véritable avec les non-chrétiens. Galates 5, verset 13. Cinquièmement, nous avons le témoignage. Mis à part un amour sincère pour ceux qui sont perdus et un désir véritable pour voir le royaume établi de Dieu, nous devons chercher à témoigner à la fois par nos mots et nos vies de telle façon que les autres puissent être amenés dans le royaume de Dieu. Saint Matthieu 28, versets 19 et 20. À nouveau, nous avons, sixièmement, le service. Oui, Jésus nourrit. Il a nourri l'affamé. Il a guéri le malade. Il a délivré le possédé du démon. Il a ressuscité le mort. Il a eu de la compassion pour les perdus. Saint Matthieu 9, versets 35 à 38. Il ne leur demanda pas en premier « Es-tu un chrétien ?» avant de les servir. Il les a servis d'abord. Et par son amour, par sa compassion, par son enseignement et son invitation, il chercha à les amener à lui. De plus, comme nous servons les perdus, nous devons le faire avec le désir suprême qu'ils viennent aussi vers notre Sauveur. À quoi ressemble mon culte ? Dois-je vouer un culte à Dieu en esprit et en vérité ? Est-ce que je sers activement le Seigneur ? Vous ne pouvez pas le servir passivement. Je ne crois pas. Est-ce que ma vie développe et encourage les autres chrétiens ? Est-ce que je sers dans l'Église d'une façon ou d'une autre, même en balayant simplement la salle ? À quoi ressemble mon témoignage pour les perdus ? Est-ce que je sers les autres, même ceux qui ne sont pas encore chrétiens ? Ça, c'est pas très facile. Vous allez peut-être constater que si vous faites ces six choses, et croyez-moi, vous n'allez pas peut-être, mais vous allez le constater, que si vous faites ces six choses, vous n'aurez plus du tout le temps pour vous servir vous-même. Et ça, c'est vrai. Mais si nous faisons ces choses comme Dieu nous le demande, nous aurions une vie si satisfaisante et joyeuse que nous ne serions plus si concernés par nos besoins et nos désirs personnels. En outre, le Seigneur et les autres chrétiens nous soigneront aussi si nous faisons ce que le Seigneur nous demande. Nous ne ferions pas seulement plaisir au Seigneur et aux autres gens, mais nous ne serions plus ennuyés. Le Seigneur peut-il nous aider à être de vrais fidèles, de vrais instructeurs, de vrais témoins et de vrais serviteurs qui, oui, disons oui, oui. Mais cela, voyez-vous, dépend évidemment de vous. Cela dépend également de moi. Oui, il y a, chers amis, quatre aspects du travail du Saint-Esprit à ne pas oublier. Voyons si on arrive au bout de tout cela. Premièrement, le Saint-Esprit et la prière. Deuxièmement, le Saint-Esprit et l'Église. Troisièmement, le Saint-Esprit et l'évangélisation. Et quatrièmement, le Saint-Esprit et le renouveau. Donc, premièrement, le Saint-Esprit et la prière. Beaucoup de chrétiens, soit conscients ou inconsciemment, quand ils viennent à Dieu en prière, prient simplement et demandent des choses en dehors de leur propre esprit et désir. Il y en a peu, s'il y en a, qui attendent que Dieu nous montre comment il veut que nous prions. C'est comme si nous ne croyons pas réellement ce qui est dit dans Romains chapitre 8, versets 26 et 27. L'Esprit Saint nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas comment prier comme il le faudrait. Mais l'Esprit Saint lui-même plaide en faveur de nous avec des soupirs très profonds pour nos maux. Et celui qui cherche les cœurs des hommes sait ce que est l'âme de l'Esprit, car l'Esprit plaide en faveur des saints, et ceci d'après la volonté de Dieu. Sachant que la volonté de Dieu, prier pour quoi et comment, est si important, parce que nous sommes assurés que c'est la confiance que nous avons en lui, que si nous demandons quelque chose d'après sa volonté, il nous entend, et si nous savons qu'il nous entend dans tout ce que nous demandons, nous savons que nous avons obtenu les demandes qui lui ont été faites. 1 Jean chapitre 5 versets 14 et 15. Pour ces raisons, l'apôtre Paul écrit « Priez tout le temps dans l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. » Éphésiens 6, verset 18. Et Jude écrit « Développez-vous dans votre plus sainte foi. » Priez, priez dans l'Esprit Saint. Jude, verset 20. Pour prier par le Saint-Esprit, nous devons d'abord apprendre à servir Dieu, chercher à être inspiré par son Esprit Saint. Ainsi, au lieu d'inventer des prières du haut de la tête, l'esprit de la prière et de l'intercession jaillit en nous, non pas du haut de notre tête, et va nous donner un libre cours à nos cœurs pour Dieu, dans la prière inspirée de l'Esprit Saint. Quand les premiers chrétiens ont fait cela, l'endroit a été secoué, Actes 5, verset 31. Les portes des prisons ont été ouvertes, Actes 12, verset 5 à 11. Et les gens ont été sauvés, Actes 10, verset 9. Et vous pouvez noter, si vous avez le temps un jour, de lire Actes 10, verset 9, jusqu'au verset 48. Quand Jésus-Christ a fait cela, par la puissance du Saint-Esprit, les miracles, oh oui, les miracles se sont produits. Les malades ont été guéris. Matthieu 14, versets 23 à 26. Les possédés du démon ont été délivrés. Matthieu 17, versets 14 à 21. Pouvons-nous aussi, chers amis, apprendre à prier tout le temps dans l'Esprit Saint? Deuxièmement, nous avons le Saint-Esprit et l'Église. Oh là là, nous n'arriverons pas à la fin. Oui, donc, rappelez-vous qu'il y a l'Esprit Saint et l'Église. Nous devons être des fidèles témoins. N'oublions jamais cela, des fidèles témoins. Troisièmement, nous avons l'Esprit Saint et l'évangélisation. Oui, c'est important l'évangélisation. Et quatrièmement, nous avons le Saint-Esprit et le renouveau. Oui. Donc, chers amis, réveillons-nous tous, et ceci par la puissance de l'Esprit Saint. Nous devons nous secouer. Le Seigneur n'est pas disposé à ce que chacun doive périr, pas du tout, mais à ce que tous puissent venir et puissent être sauvés, puissent se repentir. Dieu aime tant le monde entier qu'il a donné son seul Fils, son Fils bien-aimé. Dieu ne créa jamais personne tout simplement pour cet enfer terrible. Non, l'enfer a été préparé pour le diable et ses démons. Comment devons-nous voir l'Esprit de Dieu se déverser de nouveau dans le grand pouvoir du renouveau? Réveillons l'Église et convertissons les perdus, et par-dessus tout, surtout, glorifions Dieu le Tout-Puissant. Le Saint-Esprit ne demande pas mieux que de bouger en réponse à la prière. Oui, nous faire bouger, nous faire remuer sur et par l'Église, être inspiré pour que nous puissions évangéliser et amener le renouveau si nous sommes disposés à mettre nos vies en ordre devant Dieu, à être libérés de l'apathie, de mon apathie parfois, j'ai honte, et des autres, oui, qu'il veut faire de nous des membres qui sont pleins de zèle pour amener sa sainte parole autour de nous, à ceux qui vivent autour de nous. Croyez-moi, c'est important. Donc, n'oubliez jamais, mes amis, de prier tous les jours. Oublions jamais ce que Daniel a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? 3 fois par jour, il est allé se mettre à genoux. Ça peut être même dans la cuisine, ça peut être dans le bureau. Oh, ça pourrait même être, à la place de fumer une cigarette, dans nos toilettes du bureau, hein, de l'entreprise. Ce sera pas plus mal que de fumer une cigarette. Alors faisons-le. Croyez-moi, faisons-le. Merci encore, chers amis, pour la patience. Il en faut pour écouter ces études. Et à bientôt à nouveau. Que le Seigneur vous bénisse tous. Soyez bénis, car Dieu vous aime. Il vous aime et je vous aime. À bientôt. Au revoir.